Merci beaucoup à Frédéric Marie. On va enchaîner maintenant avec Paul. Paul Roussy est prêtre diocésain du diocèse de Bordeaux. Paul est engagé en proximité avec des personnes qui vivent la très grande précarité, en particulier des personnes à la rue et des personnes migrantes.
Merci. Mon propos est d'essayer de voir dans l'œuvre de Joseph Brzezinski la dynamique de résurrection qui se joue à partir de la croix. En effet, la croix de la pauvreté dont Étienne Grillot nous a parlé, et qui est cette résurrection qui serait une force de transformation de l'Église, voire peut-être même une force d'insurrection, en tout cas de transformation aussi sociale pour le monde. Je partirai en citant directement Joseph Brzezinski. L'Église n'est pas là où on la cherche, et Dieu ne s'y trompe pas. L'Église est au milieu des pauvres. L'Église n'est pas là où on la cherche, elle est au milieu des pauvres. Cet emploi du terme « milieu me rappelle finalement une expression de Teilhard de Chardin qui parle d'un milieu divin. Pourquoi pas, après tout, considérer que ce milieu des pauvres dont parle Joseph pour l'Église est un milieu divin. Et François, le pape, le rappelle dans Laudato aussi, la clameur de la terre est liée au cri des pauvres. Et le paléontologue Teilhard, qui a creusé les profondeurs de la terre et la précarité du sable du désert de Gobi, y a lu l'immensité de la noosphère, de la croissance cosmique du Christ. Joseph, de la même manière, dans la précarité des plus pauvres, y a lu la splendeur du royaume. Devant cette considération de l'Église contemplée dans les plus pauvres, Joseph est tout à fait tranquille devant le comportement parfois infidèle de l'Église. Et dont les pauvres sont l'Église, cela crée une sorte de dialogue de sourds avec son interlocuteur, Gilles Lanouille, qui cherche à l'entraîner dans une critique de l'Église. Alors, j'ai recensé à peu près 5 questions où Gilles Lanouille répète « Mais n'en voulez-vous pas à l'Église de se montrer si éloignée des pauvres ?» Et Joseph, à chaque fois, de dire « Non, je ne suis ni angoissé ni révolté, je ne m'inquiète pas. » Et à tel point que Gilles Lanouille lui dit « Mais finalement, l'Église que vous voyez, c'est l'Église du royaume, c'est l'Église à venir. » Et Joseph Brzezinski de répondre « Non, c'est l'Église telle qu'elle est en profondeur, dans la profondeur du monde. » De telle sorte qu'on pourrait penser finalement que Joseph Brzezinski se situe dans la direction du royaume comme une flèche tirée en dehors de l'histoire et qui vient ouvrir le ciel et déjà qui vient le déposer sur la terre, et il n'y aurait plus qu'à se baisser pour le ramasser comme la perle rare du royaume ou comme les miettes sous la table des pauvres dont parlait Agnès. Cette boussole donnée à l'Église, elle est tout près de nous. Et je crois que Joseph Brzezinski nous réconcilie aujourd'hui avec ce qu'on entend de plus en plus dans le vocabulaire de la philosophie, de la théologie. Joseph nous réconcilie avec l'utopie, avec la force d'action que représente l'utopie, qui n'est pas un rêve éloigné du monde, mais qui est la pensée du monde en direction d'un avenir meilleur et qui est capable déjà de transformer sa réalité. Je rappelle que, par exemple, une conférence de Paul Ricoeur des années 60, contemporaine de Joseph Brzezinski, intitulée « Plaidoyer pour l'utopie ecclésiale » vient d'être rééditée. Et dans ce « Plaidoyer pour l'utopie ecclésiale », Paul Ricoeur dit que il y a un maximum idéal à partir duquel on peut envisager un optimum réalisable. Et je crois que c'est dans cette tension que se situe aussi l'œuvre de Joseph Brzezinski. Alors, évidemment, quand Joseph Brzezinski dit « Non, je ne m'inquiète pas pour l'Église, l'Église et les pauvres, et EST », c'est-à-dire l'Église est identifiée aux pauvres. On peut quand même répondre à Joseph Brzezinski que la plupart du temps, ce que nous vivons, c'est une tension problématique entre l'Église et les pauvres, et ET, c'est-à-dire une coordination problématique et conflictuelle. J'ai un souvenir de vacances en Provence, où dans une vieille petite église de campagne, à droite et à gauche et à droite de la porte de l'église, il y a le tronc d'offrande pour l'église, et à droite le tronc d'offrande pour les pauvres. Eh bien, pour Joseph Brzezinski, c'est un seul et même tronc. C'est l'église radicale des pauvres que Joseph Brzezinski nous rappelle. Et dans son livre se joue entre le titre « Les pauvres sont l'Église » et sa réponse à Gilles Anouilh « L'Église et les pauvres » se joue la figure de style qu'on appelle un chiasme et qui est une figure de la croix et qui vient bien dire cette identification constante entre l'Église et les pauvres à tel point qu'elle est symétrique et symétrique par la croix. Joseph Brzezinski le dit, les pauvres parlent de l'Église comme d'eux-mêmes. Agnès nous l'a cité également, c'est leur propre sang qui est en jeu, qui coule dans les veines de l'Église. Et Joseph Brzezinski ici se situe dans la définition paulinienne du corps ecclésial. Et si l'artère des pauvres est bouchée, c'est tout le corps de l'Église qui manque d'être irrigué. Cette irrigation par les pauvres me semble représenter pour Joseph Brzezinski l'identité profonde de l'Église à tel point que peut-être on pourrait s'essayer devant les quatre notes de l'Église professées dans le credo, à savoir l'unité, la sainteté, la catholicité, l'apostolicité. Eh bien que ces quatre notes de l'Église se concentrent pour Joseph Brzezinski dans deux notes que je dirais biographiques. La première note biographique qui rassemblerait l'Église une sainte catholique et apostolique, ce serait l'Église domestique. Et c'est vrai que Joseph Brzezinski rappelle que la première figure de l'Église qu'il a trouvée, c'est celle de sa mère. C'est une figure maternelle, et je rappellerai juste au passage que Christian de Chergé, dans sa profession non violente de dialogue avec les musulmans, dans son testament spirituel, dit qu'il a appris le respect de l'islam sur les genoux de sa mère, sa toute première église. Première note de l'Église domestique. Deuxième note biographique de l'Église, dans laquelle se rassemblent encore une fois l'unité, la sainteté, l'apostolicité, la catholicité de l'Église, ce serait une Église en diaspora. Joseph Brzezinski a rencontré l'Église, cela a été cité également, dans un igloo avec une toute petite lumière allumée à l'intérieur, lorsqu'un homme assis sur une chaise y priait pour son beau-fils qui venait de se noyer. L'Église se situe dans ce lieu-là où un homme prie devant ce qui vient de se noyer, ce qui vient de se perdre, et retrouve ici le chemin du désir de retrouver ce qui s'est perdu, ce que nous avons gestué tout à l'heure avec l'évangile de la brebis perdue. On peut se demander, du coup, entre un igloo plongé dans le camp de Noisy, avec un seul homme à l'intérieur, et par exemple, pour être concret, la cathédrale de Notre-Dame de Paris, quel est le lieu de l'Église? Comment concilier ces lieux tellement différents? Alors c'est vrai que Joseph Brzezinski n'a pas vraiment théorisé son ecclésiologie. Et il m'a semblé trouver dans un petit rendu des conférences de Bonhoeffer sur la nature de l'Église, une manière d'entendre un peu l'enjeu défini par présenté par Brzezinski. Je cite Bonhoeffer, quel est le lieu spécifique de l'Église? De prime abord, il est impossible à indiquer concrètement, il est le lieu du Christ présent dans le monde, la volonté de Dieu élit tel ou tel lieu à cet effet. Je rappelle quand même que dans l'évangile de Jean, Jésus déclare « L'heure vient et c'est maintenant, où ce n'est plus ni sur ce temple, ni sur cette montagne que l'on adorera Dieu, mais en esprit et en vérité. » Bonhoeffer poursuit « C'est pourquoi les hommes ne sauraient ni désigner ce lieu, ni l'occuper d'avance. Personne ne sait d'avance où se trouvera ce centre. D'après des critères historiques, il peut se tenir à la périphérie. » Bonhoeffer poursuit encore « À telle ou telle époque, l'Église peut être sans abri, comme le fut Jésus-Christ lui-même. » Cette Église sans abri nous ramène à la possibilité de la trouver en effet hors les murs. Dans ces cas-là se pose la question difficile de la limite de l'Église et Bonhoeffer assume cette question. Voici ce qu'il en dit. Si l'Église est partout, peut-elle être limitée? Où sont ses limites? Bonhoeffer essaie d'y répondre. En tant que révélation de Dieu, l'Église forme un tout dans le monde. Néanmoins, il faut parler de ses limites parce qu'elle se trouve dans un monde qui ignore la révélation de Dieu dans l'Église. Cela signifie que l'on ne peut parler de ses limites qu'à partir de l'intérieur. Alors si nous revenons à l'intérieur de l'Église, là aussi nous sommes confrontés à une limite qui n'est pas très évidente. Évidente, c'est le vocabulaire de la vue, et nous savons bien que dans la tradition de l'Église, on parle de l'Église visible et invisible, et je crois que Joseph Brzezinski insiste sur l'Église invisible. De la même manière, Benoît XVI, dans son entretien avec Peter Sivald dans « Lumière du monde », ramène bien les choses à cette tension paradoxale des limites de l'Église. Je cite Peter Sivald qui l'interroge « Vous êtes maintenant le peuple le plus puissant de tous les temps. Jamais auparavant l'Église catholique n'a eu autant de fidèles. Jamais elle n'a connu une telle extension, littéralement jusqu'aux extrémités du monde. » Et Benoît XVI de répondre « Le pouvoir du pape n'est pas fondé sur les chiffres. La communion avec le pape est d'un autre ordre, tout comme bien entendu l'appartenance à l'Église. Parmi ce 1,2 milliard, beaucoup n'en font pas intimement partie. Saint Augustin l'a déjà dit en son temps, il en est beaucoup dehors qui semblent être dedans. Il en est beaucoup dehors qui semblent être dedans. Et il y en a beaucoup dedans qui semblent être dehors. En matière de foi, d'appartenance à l'Église catholique, intérieure et extérieure, sont mystérieusement entrelacés. » Dans ce débat, Joseph Brzezinski pose sa voix et pose son action. Il vient désigner ce lieu où beaucoup qui semblent être dehors sont en vérité dedans, à l'intérieur de l'Église. Et je crois qu'il donne pour l'Église un critère d'ecclésialité important, à savoir cette dynamique de mouvement dont nous parlait Étienne Grieux hier soir. L'Église n'est pas là où on la cherche. L'Église, il faut la chercher en dehors des limites que l'on s'est déjà fixées. L'Église, il faut l'entendre dans le jardin de la résurrection, quand Jésus s'adresse aux femmes et qu'il leur dit « Ne cherchez pas, ne cherchez surtout pas le vivant parmi les morts. » Je crois qu'il y a une conséquence quand Joseph Brzezinski donne un écho de la résurrection à sa réponse « L'Église n'est pas là où on la cherche », il y a deux conséquences. D'abord, sa vision de l'Église, son ecclésiologie, est christologique. Elle est orientée vers la présence du Christ ressuscité qui, descendu aux enfers, vient relever ce qui se perd. Ensuite, je crois aussi que son affirmation pose la question aussi de l'importance pour l'Église de maintenir son dialogue. Joseph Brzezinski ne le dit pas directement, mais j'en tire une conséquence aujourd'hui. L'importance pour l'Église de maintenir son dialogue avec les femmes, avec celles qui ont entendu ces mots que l'Église n'est pas là où on la cherche, et que pour les prêtres eux-mêmes, il est important de travailler ces liens de vie et de travail avec les femmes, et aussi avec les familles, que les presbytères aussi, concrètement, qui sont les lieux d'occupation de l'Église, puissent, et qui sont vides aujourd'hui en France, qui sont la plupart du temps occupés par des hommes seuls, au milieu de pièces vides, j'en suis témoin, eh bien, il faudrait que ces presbytères soient occupés par des familles. Ils le sont déjà pour certains. Il y a des familles d'accueil ou des familles de migrants hébergées dans le cadre du réseau Welcome, par exemple. Il me semble que la résurrection impose pour l'Église un système de contre-enquête. L'enquête habituelle et rassurante pour l'Église, c'est de chercher l'Église dans les structures qui ont déjà vieilli. La contre-enquête de l'Église, c'est de chercher l'Église non pas dans le passé, mais dans l'avenir, non pas ici, mais ailleurs, non pas à côté de moi, mais au-delà. Voilà cette dynamique à laquelle nous rappelle Joseph Brzezinski, à laquelle il nous conduit tout droit. Cette question « à quoi bon chercher le vivant parmi les morts ?» on peut la renvoyer à Joseph Brzezinski lui-même, devant son action que certains ont qualifiée de fondamentaliste ou de radicale. À quoi bon dans les camps de migrants chercher le vivant? À quoi bon dans la misère chercher la vie? Et pourquoi, pour retourner l'aphorisme cité hier soir par Jean-Claude, pourquoi dans la cendre chercher le feu? Je crois que le premier homme sur la terre qui a dit qu'il était venu allumer un feu sur cette terre, alors ce n'est pas Johnny, c'est Jésus-Christ. Et je crois qu'on peut le croire. Et tant mieux si d'autres l'ont chanté après lui. Mais en tout cas, je crois que la réponse est évidemment évangélique. À quoi bon chercher le vivant, chez le mort? Eh bien, c'est Matthieu 25 qui a été cité tout à l'heure. À quoi bon chercher le vivant chez l'affamé? À quoi bon vêtir l'homme nu? C'est bien à quoi bon nourrir l'affamé, visiter le prisonnier? C'est parce que là se trouve la figure du Christ qui ne demande qu'à être rencontré. Cette question, on peut la renvoyer aussi à l'Église elle-même. Pourquoi vous crispez-vous à chercher le vivant dans le caractère parfois mortifère de vos structures? Pourquoi chercher le vivant, par exemple, dans 12 réunions sur 7 jours, et en plus le soir jusqu'à 23 heures. Pourquoi chercher le vivant dans des matelas de réserve qu'ont certaines paroisses, qui ont comme matelas plus d'un an de fonctionnement, ce qui peut s'élever à plus de 200 000 euros, j'en suis témoin. Pourquoi chercher le vivant dans ces réserves mortifères qui ne servent à rien? Il me semble que Joseph Brzezinski nous permet de nous laisser réveiller par une parole de l'extérieur, par une parole qui vient déplacer l'Église et la remettre en contact avec la réalité de la résurrection. Pour donner un écho peut-être contemporain à la parole de Joseph Brzezinski, en tout cas un exemple, et je terminerai là-dessus en guise de conclusion, Je citerai un exemple pastoral que j'ai vécu. C'est l'histoire d'une jeune femme de 22 ans, je vais l'appeler Jeanne, ce n'est pas son vrai prénom, qui est arrivée un soir au presbytère, je l'ai reçue. Elle était envoyée par un ancien sans domicile que nous avons hébergé pendant 2 ans à la paroisse et puis qui maintenant a un appartement. Et cela faisait 2 mois qu'elle était à la rue. Elle m'a dit que je vais l'appeler Didier, cet ancien sans domicile, là aussi ce n'est pas son vrai prénom. Elle m'a dit que c'est Didier qui l'avait envoyé au presbytère, qui lui avait fait visiter l'église, qui lui avait raconté l'histoire de la paroisse. Et cette jeune fille, on a trouvé une série d'hébergements d'urgence avec des paroissiens. On l'a hébergée pendant presque 2 mois. Pendant les 2 mois de sa rue, elle a appelé tous les jours le 115. Elle a eu droit à 2 nuitées. Et puis, elle avait tout de suite fait appel à une assistante sociale qui l'a vue une seule fois. Et il a fallu qu'elle la rappelle elle-même pour la voir une deuxième fois. Jeanne, quand elle m'a dit, quand elle a découvert comme ça que d'une nuit à l'autre, elle entrait dans les maisons bourgeoises de Bordeaux de chrétiens, et qu'elle voyait les gens qui la recevaient, qui lui servaient le petit déjeuner, qui écoutaient son histoire, qui regardaient les dessins qu'elle faisait dans la rue, elle m'a dit « Mais je ne savais pas que l'Église était comme ça. Je pensais que l'Église, c'était quelque chose de vide et de froid, parce que il fait froid dedans », elle m'a dit. Je crois que le vide et le froid, ce sont les 2 traits caractéristiques du tombeau. Voilà. Et Jeanne avait une figure, une image sépulcrale de l'Église, et il a fallu qu'un ancien sans domicile puisse l'inviter plus en avant dans l'Église pour qu'elle découvre que l'Église, ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas tout à fait ce tombeau de nos églises vides et de nos presbytères inoccupés, c'est encore des hospitalités possibles. Ce sont des petits groupes paroissiaux qui se mettent au service des plus faibles et qu'il y a encore dans l'Église de la beauté et de la charité, évidemment. Cette jeune fille a connu la même ossification vis-à-vis des structures sociales. Puisque, connaissant la directrice d'un CHRS, je l'ai signalé directement à cette directrice, elle était en colère, parce que ça faisait 2 mois qu'elle avait 2 places libres dans un CHRS et qu'aucune assistante sociale de Bordeaux ne disait avoir de jeunes femmes à la rue en ce moment. Elle a contacté aussitôt l'assistante sociale de Jeanne. L'assistante sociale n'avait pas fait de fiche SIAO. Évidemment, la directrice du CHRS a fait un courrier de plainte dénonçant cet oubli. Jeanne est aujourd'hui en CHRS. Elle est logée. Il me semble que la parole de la rue, la parole de ceux du dehors, vient réveiller nos systèmes. Elle vient donner l'alarme de vigilance à entretenir et que elle vient réveiller l'Église déjà rassemblée pour la ramener à ce que Bonhoeffer dit de très beau pour l'Église, que l'Église est d'abord une humanité de résurrection, de relèvement des personnes. Je vous remercie.
Merci à l'un et à l'autre pour ces très belles et stimulantes réflexions. Nous allons, avant d'avoir un temps d'échange avec la salle, avoir un temps de groupe maintenant. La question est toute simple à énoncer, pas forcément à répondre. Dans ce que vous avez entendu aujourd'hui, que voulez-vous garder de précieux ? Voilà, on vous propose de prendre 5 minutes personnellement et puis de vous retourner par 4 ou 5 pour partager ça, vous donner un écho mutuel. Merci beaucoup.